Paulhache de Jérôme Vuittenet, chapitre 19. Dans sa chambre d'hôtel déprimante, Victor Lotz tournait en rond à 6 heures du matin. Le matelas défoncé, le bruit des douches des chambres voisines et des passages intempestifs dans le couloir juste devant sa chambre l'avaient réveillé bien avant la sonnerie de son portable. Depuis, il le consultait nerveusement, toutes les 5 minutes environ. La veille au soir, il avait regardé sur son ordinateur un film qu'il avait téléchargé sur Internet. Un thriller comme il les aimait habituellement, mais celui-ci l'avait empêché de dormir, sans raison apparente. En fait, il dormait mal depuis l'appel de Jean-Clément Charles 3 semaines auparavant. Ce dernier lui avait commandé une prestation de formation pour le personnel technique d'automobiles composants concerné par le pôle de compétitivité, mais sa commande était si précise et le ton de sa voix si autoritaire que Lotz se mettait à douter de sa propre méthode. Il lui arrivait parfois de se demander si la méthode Power était réellement applicable dans le monde industriel. À vrai dire, il n'avait jamais vu aucun résultat concret, aucune expérimentation sérieuse de cette théorie managériale. Elle ne tenait debout que par la force du charabia moderne qui l'enrobait et par la crise d'identité profonde que traversaient les cadres dans les entreprises. Alors que les universités débordaient de jeunes diplômés surqualifiés qui ne trouvaient pas d'emploi, les cadres seniors qui n'avaient souvent que le baccalauréat en poche devaient faire leurs preuves chaque jour devant des subalternes de moins en moins malléables et de plus en plus compétents. Toute technique de management qui permettait de masquer les difficultés du personnel encadrant était la bienvenue. Mais Lotz craignait qu'un projet de l'envergure du pôle hydrogène mette au jour les limites pratiques de la méthode. Si les agents du conseil régional et les employés d'automobiles composants en venaient à se rendre compte de la supercherie, c'en était fini de sa carrière de consultant, et la perspective de devoir retrouver un job de commercial le hantait chaque nuit. Il devait former 50 employés d'automobiles composants en 4 jours à partir d'aujourd'hui, principalement dans les ateliers. Pour éviter des allers-retours coûteux et fatigants en voiture, il avait pris cette chambre d'hôtel pour 4 nuits. Le petit déjeuner était servi collectivement dans le hall à partir de 7 heures. Il engloutit 5 croissants de boulangerie industrielle qu'il trempa dans un café médiocre, les yeux hagards, ignorant simplement l'existence des autres pensionnaires, majoritairement des hommes, quarantenaires, portant un costume sombre et une cravate. Certains lisaient le journal pendant que d'autres consultaient leur téléphone. Victor, dans un éclair de lucidité entre 2 viennoiseries, pensa que tous ces gens allaient sans doute créer de la valeur aujourd'hui, décrocher des contrats, réaliser des interventions techniques complexes. Lui seul contribuerait à ralentir la production en compliquant inutilement des processus simples, en plaquant des termes abscons sur des réflexions de bon sens. Puis il croisa le regard d'un autre pensionnaire de l'hôtel, comme lui, les traits tirés, le visage trahissant un manque de confiance en soi. Victor se redressa et réajusta sa cravate. Il reprit instantanément la posture de l'homme d'affaires déterminé et talentueux qu'il devait afficher pendant 4 jours. Il avala le reste de son café tout en se levant et monta chercher ses affaires dans sa chambre. Il se présenta à l'accueil d'automobiles composants quelques minutes avant le début de la formation. En patientant dans le hall, il aperçut le planning de la salle de réunion André Citroën, où il avait rendez-vous, et s'assura qu'elle était bien réservée pour les 4 jours suivants. Jean-Clément Charles descendit pour l'accueillir, les 2 hommes ne s'étaient encore jamais rencontrés. Le PDG n'eut aucun mal à dominer l'entretien avec Victor Lotz, qui mesurait 10 centimètres de moins que lui et affichait un sourire crispé qui exprimait son angoisse. Tout en le conduisant jusqu'à la salle de réunion, Charles le mit mal à l'aise à plusieurs reprises en posant des questions précises sur le déroulement de la formation, les objectifs de la méthode et ses applications concrètes dans l'industrie. Lotz répondit évasivement, confus et brouillon. Il inventa une expérimentation américaine chez un constructeur automobile à Détroit qui avait débouché sur la conception d'un modèle très innovant dont le nom lui échappait pour l'instant. Il promit de lui retrouver très prochainement, mais oublia sa promesse dès que le PDG eut tourné le dos. Il faisait maintenant face à 12 employés des usines d'automobiles composants, dont 2 chefs d'atelier et Gravard, le directeur de la fabrication. Il s'installa en souriant, sortit quelques documents de sa pochette, son ordinateur portable, et fit semblant d'examiner la configuration de la pièce, la lumière, le tableau blanc, l'écran pour projeter des images. mais il détaillait en réalité les visages et les attitudes de ses élèves du jour. Il repéra sans mal, à leurs vêtements de qualité médiocre et à leur attitude désinvolte, les ouvriers travaillant à la chaîne de production et le directeur en train de dessiner des engrenages sur son calepin, inoffensif. Le risque aujourd'hui venait des deux chefs d'atelier. Responsables de premier niveau, ils avaient le souci du travail bien fait et la pression de la production à assurer. Ils étaient les premiers à être touchés par un changement des méthodes de travail et par conséquent généralement les plus vigilants et les plus critiques. Après s'être présenté brièvement, il commença le cours. Je viens donc vous présenter la méthode Power qui a été inventée aux États-Unis dans les années 90 par des spécialistes de l'approche processus et de la rationalisation du travail. Elle permet à la fois de réduire les coûts et les délais tout en augmentant la qualité du service rendu et l'implication des employés. Elle est bien sûr particulièrement adaptée au monde industriel, où elle est aujourd'hui très utilisée un peu partout en Europe. Il avait adapté son introduction pour la circonstance en insistant sur les qualités industrielles de la méthode. Il nota rapidement la gêne d'un des deux chefs d'atelier, René Martinez, qui travaillait à l'atelier des réservoirs. Il s'agitait sur sa chaise et ne prenait aucune note, contrairement à tous les autres qui faisaient au moins semblant d'écrire sur leur calepin. Il secouait légèrement la tête en signe de désapprobation lorsque l'intervenante abordait les détails de la méthode, mais ne l'interrompait jamais pour poser une question ou expliquer son désaccord. Alors qu'il en était au « E » de Power, Lotz remarqua chez son contradicteur silencieux une contrariété encore plus palpable qui le poussa à l'interroger. « Vous n'êtes pas convaincu, monsieur ?»« Martinez, chef d'atelier réservoir. »« Qu'est-ce qui vous chagrine, monsieur Martinez ?» Votre méthode là, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'appliquer ici. Et pourquoi cela? Ben, déjà on n'a pas le temps de remplir des paperasses, on a la production à assurer et des tas de problèmes techniques à régler au quotidien. Si l'on prend une heure tous les jours pour remplir des fiches, on va travailler une heure de moins, fatalement. C'est une erreur commune, mais vous avez raison de soulever ce point, c'est important. Effectivement, pendant qu'on remplit des fiches, on ne fait pas de production, c'est indiscutable. Donc je ne vois pas bien comment... Mais aujourd'hui, vous avez déjà des problèmes de production, des incidents, des pannes qui nécessitent une réorganisation, un retour à votre hiérarchie, n'est-ce pas ? Au mot hiérarchie, Gravard leva les yeux de sa feuille qui était presque entièrement griffonnée de dessins techniques sans rapport direct avec la formation. Oui, bien sûr, répondit Martinez, c'est notre quotidien. Et aujourd'hui, avez-vous le sentiment d'être entendu, de régler correctement ces problèmes qui se posent à vous ? Martinez jeta un œil inquiet à son supérieur direct, qui le regardait d'un air impassible. « Ne vous en faites pas, monsieur Gravard, c'est ça ?» Lotz consulta la fiche des participants qu'il avait sous les yeux. « Monsieur Gravard ne vous en voudra pas, nous sommes là pour nous dire des choses et pour avancer. »« Allez-y, Martinez, » confirma gentiment le directeur de la fabrication. « Eh bien, non, aujourd'hui on rafistole les machines, on répare comme on peut pour que la production reparte, mais sur le fond on ne règle rien. Pas plus tard que l'autre fois, sur cette question des jauges... » « N'entrons pas dans les détails, s'il vous plaît, interrompit Lotz, restons dans le cas général. Vous confirmez donc que dans le fonctionnement actuel, vous perdez du temps à faire un retour à la hiérarchie qui n'est pas suivi d'effets probants, et donc la panne ou le problème revient parce que cela n'a pas été traité correctement à la racine. » « Oui, en quelque sorte, mais des fois il n'y a peut-être pas de solution, » dit Martinez pour ne pas accabler son directeur, qui semblait découvrir que certains problèmes n'étaient pas résolus correctement dans ses ateliers. « Eh bien moi, je vous propose une méthode pour que ces problèmes soient vraiment résolus, consignés, notés, et que l'amélioration soit palpable. »« Je ne comprends pas comment ça fonctionne, » avoua Martinez. « C'est parce que vous ne voyez pas tout l'intérêt de cette fiche. » Il exhiba un morceau de papier présentant un formulaire somme toute assez banal, comme si c'était une formule magique connue de lui seul. Mais c'est normal. Je suis là pour vous en apprendre l'intérêt et le fonctionnement. J'ai vu des dizaines de chefs d'atelier qui, comme vous, à cet instant de la formation, ont douté de l'intérêt et du fonctionnement de la méthode. Aujourd'hui, ils utilisent tous le power et n'en changeraient pour rien au monde, exulta Lotz. René Martinez réfléchit un instant, faillit répondre, mais finalement se tut. Il n'avait aucun argument à opposer au formateur si sûr de lui. Lotz reprit le cours de sa formation et veilla à ne plus donner la parole à Martinez, qui n'osa pas la prendre de lui-même.